Je vais ce matin partir d'un seul verset que donc par la force des choses je vais isoler de son contexte. Je sais que ça ne se fait pas, mais on va commencer par ça. J'ai choisi ce verset parce qu'il m'a longtemps posé un problème. Et donc c'est un verset que tout le monde connaît par cœur, qui se trouve dans la première lettre aux Corinthiens. Et c'est le premier verset du chapitre 11, donc 1 Corinthiens 11, verset 1. Et c'est Paul qui parle, enfin qui écrit, et qui dit, ce que vous allez découvrir là, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Quand je dis que c'est un verset qui m'a posé un problème, en fait c'est pas vrai, ce verset m'en a posé 4 des problèmes. Et je vais vous les exposer brièvement. Le premier problème, nous sommes dans une église protestante évangélique, et dans protestant évangélique, il y a protestant. Donc ça veut dire issu de la réforme, et un des piliers de la réforme, nous le savons tous, c'est que nous insistons beaucoup sur une autre parole de Paul qu'il écrit cette fois à Timothée, c'est dans la première lettre à Timothée au chapitre 2 et au verset 5, ça aussi on le connaît par cœur, et Paul dit, il n'y a pas d'autre médiateur entre Dieu et les hommes que Jésus. On peut le lire si vous voulez, donc 1 Timothée 2 verset 5, voilà, 1 Timothée 2 verset 5, il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est un homme, le Christ Jésus, qui s'est donné en rançon pour tous. Donc ça, dans des oreilles protestantes, dans les oreilles protestantes qui sont les nôtres, ça veut dire surtout pas d'intermédiaire. Le type qui vient et qui dit « Vous là, vous me regardez moi, et moi, je regarde Dieu », ça, c'est ce qu'il y a pour nous de pire dans le catholicisme. C'est-à-dire la notion même de prêtre. Le prêtre, c'est effectivement, dans l'Ancienne Alliance, c'est clairement l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Mais ce que la Nouvelle Alliance inaugure, c'est le statut sacerdotal pour tous. Nous sommes tous des prêtres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons tous un accès égal et direct à Dieu. Donc moi, je fais partie instinctivement des gens qui disent que, ça aussi c'est une formule bien connue, il vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints, autrement dit, il vaut mieux aller directement à la source, et que, quitte à ce qu'au bout du compte, on imite le Christ, autant que ce soit par un mouvement direct que par une imitation indirecte, c'est-à-dire imiter quelqu'un qui imite, l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours. Alors ça, c'est le premier obstacle. Encore une fois, moi, je revendique, pas par orgueil, pas par prétention, mais par l'annonce qui m'est faite dans le cadre de la Nouvelle Alliance, la possibilité, le droit, et même la capacité, grâce à lui, bien sûr, par son esprit, de porter mes regards directement sur le Christ, et pas, encore une fois, sur quelqu'un qui imite quelqu'un que je dois imiter. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, imiter le Christ. Bon, c'est sympa à dire, mais concrètement, ça veut dire quoi? Parce que dans, vous ne me contredirez pas, dans 99% de ses paroles et de ses actes, le Christ, il est précisément inimitable. On va quand même pas aller se planter sur la tombe de quelqu'un qui est enterré depuis 3 jours pour lui dire d'une voix forte « Sors !» Je ne vous conseille pas de tenter l'expérience. Je ne vais pas imiter le Christ et me rendre ridicule au point de vous dire « Moi, avant Abraham, je suis. » Ça, évidemment, ça n'appartient qu'à Jésus. Ça n'appartient, 99% encore une fois de ce qu'il dit, il n'y a que lui qui peut le dire. ça n'est pas à la portée d'une parole humaine et 99% de son comportement, même chose. En dehors du fait que la peine de mort est abolie depuis maintenant un bon bout de temps, je ne vais pas aller me faire condamner à mort pour le salut de l'humanité. Alors comment est-ce que concrètement je peux imiter le Christ alors que justement il est par essence inimitable? Ça c'est mon deuxième problème. C'est pas fini. Mon troisième problème, c'est que, ok Paul, tu me dis imitez-moi et moi j'imite le Christ. Mais ce que je remarque, et ce que tous les commentateurs, parce que j'ai évidemment pas inventé la marche arrière, hein, ce que tous les commentateurs ont depuis toujours remarqué, c'est que, en dehors de l'exception notable du rappel des paroles de Jésus quand Paul, on va appeler ça, c'est ce qu'on appelle en théologie le texte de l'institution, c'est-à-dire de l'institution de la scène. Et donc, Paul rappelle les paroles de Jésus. Donc, à ce moment-là, Jésus a dit « prenez, mangez », etc. Mais en dehors de cette exception notable, jamais, jamais, Paul, dans ses écrits, et pourtant il en a écrit des pages, hein, Paul, dans ses écrits, ne fait jamais la moindre allusion à la vie terrestre de Jésus. Jamais. Jamais il ne fait d'études bibliques sur le comportement de Jésus ou sur ses discours. Jamais. Alors que pourtant, il sait le faire. Hein. Il le fait pour Abraham. Il dit, voilà, Abraham s'est comporté comme ça, et voilà ce qu'il faut comprendre. Il est capable, et il le fait souvent, d'analyser l'histoire pour en tirer une leçon théologique. Jamais pour ce qui est de la vie de Jésus. Alors, moi je veux bien, mais si je voulais vous inciter, par exemple, à imiter Gandhi, eh ben, la première chose que je ferais, je vous lirai ce qu'il a écrit, et puis je rappellerai sa vie, éventuellement je projetterai le fameux film de Richard Attenborough, et je vous dirais, ben voilà, voilà ce qu'il y a à imiter. Paul, pas un mot sur le Jésus humain. C'est une drôle de façon d'inviter les gens à imiter quelqu'un. Et puis, quatrième problème, mais c'est pas le moindre, quand on a cette prétention-là, parce qu'on pourrait penser que Paul est prétentieux, quand on a cette prétention-là, c'est-à-dire quand on dit hey, « Eh, vous me regardez moi, et moi je regarde Christ », ça veut dire que je me sais et je me sens capable de l'imiter. Alors encore une fois, c'est compliqué à vérifier parce que, comme je l'ai dit, le Christ est inimitable dans ses paroles et dans ses actes. À moins qu'en cherchant bien, on arrive à trouver, parce que imiter, ça veut dire avoir la même façon de se conduire ou de se comporter dans les mêmes circonstances. C'est ça, imiter. C'est si je suis placé dans les mêmes circonstances, je fais la même chose que lui. Et donc, si on arrive à trouver dans la vie de Jésus et dans la vie de Paul des circonstances rigoureusement identiques, on peut effectivement contrôler la capacité de Paul à imiter Jésus, c'est-à-dire placer dans la même situation, est-ce qu'il réagit de la même manière? Et ça, on cherche, et on finit par trouver qu'ils ont vécu exactement la même chose à un moment de leur vie. Et on va vérifier ensemble, alors si vous n'avez pas deviné, on va vérifier ensemble s'ils ont eu le même comportement. Alors, c'est parti. On va lire d'abord ce qui est arrivé à Jésus dans Jean chapitre 18. Jean chapitre 18, verset 19. Jean 18, 19. Tu vas y arriver avant moi sans doute. Alors, Jean 18, 19, voilà. Le grand prêtre se mit à interroger Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit, donc Jésus est à son procès devant le grand prêtre. Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement au monde, j'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans le temple où tous les juifs se rassemblent et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi est-ce que c'est moi que tu interroges ? Ce que j'ai dit, demande-le à ceux qui m'ont écouté. Ils savent bien, eux, ce que j'ai dit. » À ces mots, un des gardes qui se trouvait là gifla Jésus en disant « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ?» Jésus lui répondit « Si j'ai mal parlé, montre-moi en quoi. Et si j'ai bien parlé, pourquoi est-ce que tu me frappes ?» Là-dessus, Anne envoya Jésus ligoté à Caïphe, le grand prêtre. Jésus est à son procès, on l'interroge, il répond, ça ne plaît pas au grand prêtre, et du coup, il se prend un coup de poing, c'est comme ça qu'on faisait à l'époque, un coup de poing dans la bouche, pour lui signifier qu'il doit mesurer ses paroles. Alors, est-ce que par hasard, il serait arrivé exactement la même chose à Paul ? Acte 23, chapitre 1er, Acte chapitre 23, verset 1er. Eh bien, si, figurez-vous que Paul se trouve exactement dans les mêmes circonstances, c'est-à-dire que lui aussi va se prendre un pain au milieu de son procès parce qu'il a mal parlé. Donc, les yeux fixés sur le Sanhédrin, Paul déclara « Frère, c'est avec une conscience sans aucun reproche que je me suis conduit envers Dieu jusqu'à ce jour. » Mais le grand prêtre Ananias ordonna à ses assistants de le frapper sur la bouche. Paul lui dit alors « C'est toi que Dieu va frapper, muraille blanchie. Tu sièges pour me juger selon la loi, et au mépris de la loi, tu ordonnes qu'on me frappe. » Les assistants l'avertirent « Tu insultes le grand prêtre de Dieu. » « Je ne savais pas, frère, répondit Paul, que c'était le grand prêtre. Il est en effet écrit « Tu n'insulteras pas le chef de ton peuple. » Alors, d'abord, depuis Ésaïe, muraille blanchie, c'est une vraie insulte, hein. C'est pas de la dentelle, c'est le mec qui s'en prend une et qui foudrage dit au président du tribunal, parce que c'est lui. Alors je vais pas vous traduire, je veux pas faire de la provocation avec des gros mots, mais c'est une vraie insulte. Paul est hors de lui et ça peut se comprendre. Bon, sauf que là, on est bien obligé de constater que entre la réaction exactement dans les mêmes circonstances. Entre la réaction de Jésus et la réaction de Paul, il y a un abîme. Il y a un abîme. On a lu tout à l'heure, Jésus dit, si j'ai mal parlé, si j'ai tort, dis-moi en quoi j'ai tort, et si j'ai raison, pourquoi est-ce que tu ordonnes qu'on me frappe ? Alors que Paul sort de ses gonds, et lui dit quelque chose qui ressemblerait à, aujourd'hui, espèce d'enfoiré, c'est toi qui vas en prendre une. Parce que c'est ça, ce qu'il dit. Alors, après, quand Paul vient me dire « Tu me regardes moi et tu m'imites moi, et moi j'imite le Christ », je me sens quelque part en droit de lui dire « Tu imites le Christ jusqu'à un certain point. » Parce que, encore une fois, là je trouve un exemple où, placé dans les mêmes circonstances, la réaction n'est pas tout à fait la même. Voilà. Et donc, vous me connaissez assez pour savoir que quand je fais une première partie négative à ce point, c'est pas pour vous laisser avec des points de suspension en disant « Allez, débrouillez-vous avec ça, bon dimanche !» Non, parce que ça, c'est effectivement ce qui m'a interpellé, ce qui m'a interrogé. Et si je suis là pour vous parler de ça, c'est parce que j'ai en quelque sorte eu une réponse, une réponse à ces interrogations. Il y a une clé de compréhension. Il y a une clé de compréhension. Alors, je ne vais pas tout reprendre forcément systématiquement, mais la clé de compréhension, je la lis, et c'est aussi une phrase que vous connaissez par cœur, parce qu'elle est beaucoup connue, bien connue et beaucoup commentée. Donc c'est toujours dans la lettre aux Corinthiens, chapitre 2, verset 2. « J'ai décidé de ne rien savoir parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Là, Paul nous livre le secret de son attitude et surtout de son silence sur la vie terrestre de Jésus. Et il dit pas « ça m'intéresse pas ». Il dit, moi, la seule chose qui m'est utile dans mon enseignement, c'est pas de vous raconter que quand il a guéri tel malade, non. Ce qui est utile dans l'imitation, tous ceux qui sont passés par le catholicisme savent que pendant des siècles, le livre le plus vendu, à défaut d'être le plus lu après la Bible, c'est un livre qui s'appelle « L'imitation de Jésus-Christ ». Tous les catholiques connaissent ça. Et donc, Paul, là, ce qu'il nous dit, c'est quand il s'agit d'imiter Jésus-Christ, il ne s'agit pas d'imiter quelqu'un d'inimitable dans ce qu'il a vécu, ou dans ce qu'il a dit, ou dans ce qu'il a fait. Il s'agit de l'imiter quand il est sur la croix. Ce que je veux connaître parmi vous, c'est Jésus-Christ, et Jésus-Christ sur la croix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Paul, il a ce privilège que très peu d'humains ont eu pendant leur vie, quand je dis très peu, c'est qu'ils se comptent sur les doigts de la main, c'est de voir Jésus dans sa divinité. La Bible dirait dans sa gloire. C'est aussi arrivé à Jean. Vous savez que dans le prologue de Jean, il dit « Nous avons vu sa gloire, cette gloire que Fils unique, il tient du Père. » Et Paul aussi a eu cette chance, a eu ce privilège, parce que sur le chemin de Damas, Jésus s'est montré tel qu'il est dans sa divinité et non pas dans son humanité. Et donc ça donne à Paul, enfin comme aux quelques rares personnes à qui c'est arrivé, un privilège particulier, c'est-à-dire de mesurer le niveau de renoncement, et c'est le mot-clé de mon propos ce matin, le niveau de renoncement qu'il peut y avoir entre un Dieu, parce qu'il est Dieu, celui par qui tout a été créé, celui qui est, avant la fondation du monde, l'image de Dieu, et un homme condamné à mort et exécuté de la manière dont on exécutait à cette époque-là, c'est-à-dire sans ménagement particulier, sans considération particulière, mais qui fait de lui, dans l'humanité, le plus bas de l'échelle. Et Paul est capable, et enfin, nous aussi, mais encore faut-il y réfléchir, et encore faut-il le méditer, parce que ça, c'est pas quelque chose qu'on peut se contenter d'affirmer comme ça péremptoirement et après on passe à autre chose. Il faut vraiment méditer là-dessus. Le degré d'abaissement, de renoncement que ça suppose, d'abandonner, comme pour reprendre sa formule à lui, la gloire qui était la sienne auprès du Père avant que le monde fût, pour non seulement, et quand on a moi, il y a une image qui me frappe, et c'est une image que j'ai vue dans un documentaire sur l'astrophysique. C'est à quel point, alors nous déjà sur la Terre, on n'est pas gros, hein, mais à quel point la Terre, qui est dans le système solaire, qui est dans la galaxie machin, et quand on zoome arrière et qu'on voit, enfin, on peut pas voir, puisque par définition, on n'en connaît pas les limites de cet univers en expansion. Mais quand on pense à ce qu'est, c'est même pas un grain de sable sur une plage immense, c'est quand on pense à ce qu'est la Terre dans l'univers, celui qui domine cet univers tout entier parce qu'il l'a créé, se rend capable de venir sur cette espèce de tête d'épingle pour sauver les bipèdes qui s'agitent, mais qui s'agitent toujours dans le mauvais sens, ça demande un niveau de renoncement inimaginable. Et quand Paul dit « Il faut m'imiter parce que moi j'imite le Christ », c'est de ça qu'il parle. J'imite le Christ crucifié. C'est-à-dire, je renonce. Et ça rejoint tout à fait, et là Paul agit et parle en parfait théologien, c'est que on a l'habitude de dire dans les églises évangéliques, comme une ritournelle, il n'y a pas de condition pour devenir disciple du Christ. Venez, approchez, levez la main, approchez-vous, on va vous imposer les mains, bon, hein, très bien, il n'y a pas de condition, si. Il y en a une seule, renoncer. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même. Et même, le verbe est plus fort que ça, qu'il se nie lui-même et qu'il me suive. Et Jésus a montré que l'incapacité... Alors, la difficulté de mon propos ce matin, c'est que après, ça renvoie à chacun le soin de déterminer ce que ça veut dire renoncer. Parce que ça ne veut pas dire la même chose pour l'un et pour l'autre. Ça ne veut pas dire la même chose pour toi et pour moi. Parce que renoncer comme Jésus a renoncé à être ce qu'il est, à son identité même sur la croix, ben, on le sait tous parce que il nous en a donné l'exemple. Pour un homme, ça va être renoncer à ses richesses, vends tout ce que tu as et suis-moi. Donc renonce à ça. Et pourquoi à ça? Alors que il n'est pas demandé à tout le monde de vendre ses biens. Il est demandé à lui. Jésus lui demande à lui de vendre ses biens parce que c'est là qu'est son identité. Lui, son identité, elle est là. La mienne, elle est où? L'attente de Dieu, c'est que nous consentions à ne plus exister. La phrase n'est pas de moi, elle est de Simone Veil. Alors, pas Simone Veil. Il y a deux Simone Veil, hein, qui sont à peu près contemporaines. Il y a la ministre qui est enterrée au Panthéon et que tout le monde connaît, la loi sur l'avortement, machin. Et puis, il y a Simone Veil. Alors, ça s'écrit pas pareil. Veil, c'est Simone Veil, la ministre, c'est un V. Et Simone Veil, la philosophe, enfin, la philosophe, moi je préfère dire la mystique, c'est un W. Simone Veil, donc, est connue comme philosophe, mais surtout comme mystique, qui a notamment, enfin, dont les pensées sont recueillies dans un ouvrage qui s'appelle La pesanteur et la grâce, dont je vous recommande la lecture, et qui dit notamment ceci, qui dit l'attente de Dieu, c'est que nous consentions à ne plus exister. Quand Paul dit « ça n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi », ça paraît prétentieux. Renoncer. Alors, encore une fois, là, je renvoie le questionnement à chacun, mais je suis quasiment sûr, parce que nous avons reçu le Saint-Esprit. Je suis quasiment sûr, étant observé que le renoncement, c'est pas l'affaire d'un instant. C'est pas je renonce et puis après on passe à autre chose. C'est pas le jour de ma conversion, j'ai renoncé à fumer ou j'ai renoncé à coucher avec tout ce qui se présentait. Non, c'est un renoncement continu dans le temps. Et je suis convaincu que Dieu met dans le cœur de chacun de nous le sens pour lui de ce que doit être le renoncement. Mais pour autant, j'ai dit tout à l'heure qu'il était prétentieux de se poser en modèle, puisque imitez-moi, ça veut dire je suis un modèle. Et pourtant, alors, là, il y a une mise au point à faire, c'est que on sait dans les milieux évangéliques qu'il n'y a pas de médiateur, et du coup, on a du mal à accepter les modèles. Pas la même chose. La médiation et l'imitation. C'est-à-dire que il faut effectivement refuser catégoriquement qu'il y ait des médiateurs au sens où notre relation avec Dieu est immédiate, c'est-à-dire sans médiation. Mais pour autant, ça n'exclut pas de regarder certaines personnes comme des modèles. Alors, je sais bien que dans le catholicisme, ça a été dévoyé, parce que ceux qu'on appelle les modèles, on les appelle les saints. Et que du coup, on ne va pas se mettre à lire la vie des saints. N'empêche que, quand Paul s'adresse par exemple aux responsables des églises, il leur dit « soyez les modèles du troupeau ». Donc, ça a son utilité de regarder certains comme des modèles. Et Paul, et là j'entre directement dans le propos d'Akoche à l'instant, et Paul, de ce point de vue-là, il est un modèle. Alors, effectivement, quand on lit les écrits de Paul, on a l'impression qu'il a un peu ce qu'on appellerait aujourd'hui un ego légèrement surdimensionné. Autrement dit, en langage vulgaire, il se prend pas pour la queue d'une poire. N'empêche que, quand on décortique ses écrits et son comportement, et ce qu'il en dit, on s'aperçoit que c'est un modèle de renoncement. Alors c'est paradoxal, mais c'est de ça que, je veux pas être trop long, mais c'est de ça que je veux maintenant vous entretenir. Sur trois points, ou plutôt dans trois domaines, mais je ne prends que des exemples, c'est-à-dire qu'on pourrait multiplier ça, on pourrait trouver d'autres exemples. Mais dans trois domaines qui sont trois domaines essentiels, parce qu'à partir de maintenant, il faut être concret, on rentre dans le dur. Ça veut dire quoi ? Pour moi, renoncer, à l'image de Jésus sur la croix, qui est le renoncement absolu du Dieu qui non seulement se fait homme, mais qui accepte de mourir. Enfin, je vais quand même vous... Enfin, Paul est tellement subjugué par ça que, vous le savez, il a écrit un poème. Alors, je vais vous lire le poème de Paul. Quand même, on a deux minutes pour lire un poème. Donc ça, c'est dans Philippiens. Vous le connaissez, ce poème de Paul, sur le, justement le renoncement... Voilà. Et il dit, il commence son poème par « Faites-en autant », c'est-à-dire « Imitez-le ». C'est donc dans Philippiens chapitre 2 à partir du verset 5, le reste est en prose, hein, mais là ça commence à être en vers. Entre parenthèses, c'est un poème extrêmement construit, c'est-à-dire totalement symétrique, avec des... Bon, enfin, je ne veux pas vous faire un cours de poésie, j'en serais bien incapable d'ailleurs, mais le seul membre de phrase qui ne colle pas dans l'harmonie du poème, mais c'est pas accidentel, c'est tout à fait intentionnel, c'est le « à la mort sur une croix ». Ça, il l'ajoute comme pour dire, ça c'est le point d'orgue, c'est le sommet du truc, au point que ça rentre pas dans la normalité, c'est tellement extraordinaire que je marque ce caractère extraordinaire dans la construction du poème. Alors voilà. Comportez-vous ainsi, donc imitez, comportez-vous ainsi entre vous, comme on le fait en Jésus-Christ, lui qui est de condition divine n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, et reconnu à son aspect comme un homme, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et là il ajoute, encore une fois, de manière inhabituelle dans la construction du poème, à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que le Seigneur, c'est Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Voilà ce que ça inspire comme poésie à Paul, cette contemplation du renoncement. Et donc, je ne veux connaître que Jésus et Jésus-Christ crucifié, pour lui ça a un sens. Et donc, le renoncement qui va être le sien, et qui va lui permettre d'oser dire, parce que effectivement, vous avez raison, il faut être gonflé, qui va lui permettre d'oser dire sur ce terrain-là, sur le terrain du renoncement, imitez-moi, parce que moi, j'imite le Seigneur, c'est, je vous le disais, entre autres, mais principalement dans trois domaines. D'abord par rapport au monde. Alors, par rapport au monde, j'allais dire dans son existence sociale. Encore une fois, celui qui vient après moi, qu'il se nie, parce que c'est ça le terme littéralement, c'est qu'il se nie lui-même. Parce que renier, ça ne va pas. C'est qu'il s'anéantisse, en quelque sorte, à ses propres yeux. Donc, il le fait dans le domaine social. Philippiens 3, verset 4 à 11. Tout ça, vous le connaissez par cœur, mais je voulais mettre ça en lumière. Et effectivement, le problème de Paul, c'est qu'il a il le résout son problème, mais c'est que lui, il a un long chemin à parcourir. Parce que si je vous dis j'ai renoncé à être le Ballon d'Or 2019, Luc va être mort de rire, parce qu'il sait très bien que même si j'avais pas renoncé, et ainsi de suite. Je veux dire, renoncer à quelque chose que de toute façon on n'aurait pas atteint, c'est pas un renoncement. Paul, il part pas du niveau zéro. C'est que il le rappelle socialement, ça n'est pas n'importe qui. Alors, je laisse de côté le fait que il soit citoyen romain, ce qui est le gratin, qu'il soit de culture grecque et qu'il soit capable de citer des poètes grecs par cœur. Bon, mais ne serait-ce que dans son milieu social propre, qui est le judaïsme, eh ben il le dit. Pourtant, j'ai des raisons d'avoir confiance en moi-même, ce qui est le contraire du renoncement. Hein. Si un autre croit pouvoir se confier en lui-même, moi je le peux encore plus. Circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu fils d'hébreu, pour la loi pharisien, pour le zèle persécuteur de l'Église, et pour la justice qu'on trouve dans la loi, irréprochable. Or, toutes ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai considérées comme une perte à cause du Christ. Oui, je considère que tout est une perte en regard de ce bien suprême qui est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu, et je considère tout cela comme étant des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non plus avec une justice à moi qui vient de la loi, mais avec une justice qui vient par la foi au Christ, la justice qui vient de Dieu et s'appuie sur la foi. J'ai considéré tout ça comme des choses, littéralement en grec, qui vont à la poubelle. Je mets à la poubelle mon identité. C'est ça, se nier soi-même. Ce qui fait mon identité, c'est-à-dire ce qui fait que je ne suis pas n'importe qui, et je vous fais le catalogue, ça va à la poubelle. Parce que si je ne renonce pas à ça, je ne pourrai pas dire, comme il l'a dit ailleurs, ça n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pour être capable de dire, c'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, il faut évidemment avoir accepté, comme dit Simone Veil, de ne plus exister. Le consentement à l'anéantissement de soi. Et donc, dans le monde, et je pourrais multiplier les exemples et en faire la démonstration, dans son comportement, Paul ne met jamais en avant ce qui pourrait être ses attributs personnels, son identité, mais met en avant le Christ. Je suis là comme ambassadeur du Christ. Et moi, je n'ai plus d'importance parce que je me suis nié. Et voilà ce qu'est Paul dans le monde. Alors effectivement, à première vue, on peut penser que c'est pas quelqu'un de très effacé, Paul, et je veux bien le concéder. Mais dans la réalité de son comportement, c'est quelqu'un qui a su s'anéantir à l'image du Christ. Sur le plan social, il y a un deuxième terrain. Je vais vous surprendre. Le terrain ecclésial, dans l'Église. Dans l'Église, on ne va pas se nier quand même. Ah bon ? Alors, 1 Corinthiens 9, versets 1 à 15. Alors, effectivement, quand il s'exprime comme une grande gueule. Pardon pour la formule. C'est ce qui peut induire ce genre de remarque à son propos. Mais il faut pas regarder à la forme, il faut regarder au fond. Qu'est-ce qu'il dit au fond? Parce qu'effectivement, il dit, moi, hébreu, fils d'hébreu, circoncis, machin, irréprochable quant à la loi, mais pour dire quoi? Pour dire tout ça, poubelle. Et là, c'est pareil. Moi, je suis apôtre. Plus que n'importe... Et effectivement, j'allais dire, si on fait de l'histoire quantitative, il a ratissé à lui tout seul beaucoup plus large sur le plan de l'évangélisation que tous les autres réunis, bien sûr. Alors, ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu, moi, Jésus, notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres, je ne suis pas un apôtre, pour vous, au moins, je suis. Car le sceau de mon apostolat, c'est vous, dans le Seigneur. Ma défense contre mes accusateurs, la voici. Est-ce que j'aurais pas le droit de manger et de boire? Est-ce que j'aurais pas le droit d'emmener avec moi une femme chrétienne comme les autres apôtres, les frères du Seigneur et Képhas? Moi seul et Barnabas, n'aurions-nous pas le droit d'être dispensés de travailler? Qui a jamais servi dans l'armée de ses propres frais, à ses propres frais? Qui plante une vigne sans en manger le fruit? Qui fait paître un troupeau sans se nourrir du lait de ce troupeau? Cela n'est-il qu'un usage humain? Ou la loi n'y est-elle pas la même chose? Eh bien si, il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne muselleras pas le bœuf qui foule le grain. Dieu s'inquiète-t-il des bœufs? N'est-ce pas pour nous seuls qu'il parle? Oui, c'est pour nous que ça a été écrit. Car il faut de l'espoir chez celui qui laboure, et celui qui foule le grain doit avoir l'espoir d'en recevoir sa part. Si nous avons semé, pour vous les biens spirituels, serait-il excessif de récolter vos biens matériels? Si d'autres exercent ce droit sur vous, pourquoi pas nous, à plus forte raison? Cependant, nous n'avons pas usé de ce droit. Nous supportons tout, au contraire, pour ne créer aucun obstacle à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui assurent le service du culte sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à ce qui est offert sur l'autel? De même, le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent l'évangile vivent de l'évangile. Mais moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits. Et je n'écris pas ces lignes pour les réclamer, plutôt mourir. Personne ne me ravira ce motif d'orgueil. Il a failli dire plutôt crever. Mais c'est ça le renoncement. Moi, dans l'Église, j'ai une place. J'ai une place que personne ne peut me contester. Et bien ça ne prendra pas la place que doit avoir le Christ. Ça ne sera pas un obstacle. Donc ça, et effectivement, c'est un statut, le statut d'apôtre. Alors, on a le droit d'emmener une femme, effectivement, parce que c'est pratique pour faire la cuisine. À cette époque-là, on parle pas de sexisme. Bien sûr qu'il a des droits. Puis il a surtout le droit de ne pas travailler. Et pourtant, il le fait. Son renoncement, ça va aussi jusqu'à sa place dans l'Église. Et puis, troisième exemple, parce que la place dans le monde, la place dans l'Église, encore une fois, l'Église, elle n'est pas faite de ça. Et il le sait bien, Paul. Elle est faite des relations. Elle est faite des relations, c'est-à-dire de ce lien qu'on entretient individuellement les uns avec les autres. Eh bien, dans ce domaine-là, est-ce qu'il est capable de renoncer? Alors ça se trouve dans la lettre à Philémon. Alors je vais pas tout lire. Mais, Philémon, au verset 8, là il n'y a pas de chapitre, c'est pratique, il n'y en a qu'un. Donc, Philémon, verset 8, alors, vous connaissez l'histoire de Philémon. Paul écrit à Philémon, le maître, pour demander l'affranchissement de l'esclave Onésime. Et il se trouve que c'est grâce à Paul que les deux, le maître et l'esclave, mais pas ensemble, et à une grande distance, aussi bien dans le temps que dans l'espace, c'est par Paul que les deux se sont convertis. Et donc, Paul, je vais le lire, mais en résumé, Paul dit à Philémon, je pourrais, parce que tu me dois la vie finalement, parce que si tu as connu le Christ et si tu es devenu un disciple du Christ, c'est grâce à moi. Donc je peux tout te demander en théorie. Et alors que j'ai sur toi cette emprise qui pourrait me permettre de te dicter ta conduite, au lieu de me mettre au-dessus de toi, je me mets en dessous. Et je te demande, au nom de l'amour, de faire grâce à ton esclave. Aussi bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ton devoir, c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une requête. Oui, moi Paul, qui suis un vieillard, moi qui suis maintenant prisonnier de Jésus-Christ, je te prie pour mon enfant, celui que j'ai engendré en prison, Onésime. Et il lui dit au... Alors après, il signe une reconnaissance de dette, parce qu'il faut que ce soit concret tout ça, en disant, je pourrais te prescrire ta conduite, je pourrais t'ordonner d'affranchir Onésime, mais non seulement je te le demande par amour, mais en plus, s'il faut te payer, parce qu'un esclave, ça a un prix, ça a un coût, il a fallu en racheter un quand l'autre s'est barré. S'il faut payer le prix de l'esclave, moi, Paul, je paye. Et je signe de ma main une reconnaissance de dette. C'est aussi un document juridique, cette lettre. C'est moi, Paul, qui t'écris de ma main, parce qu'il faut, pour que ce soit une reconnaissance, c'est comme en France, pour que ce soit une reconnaissance de dette valable, il faut qu'elle soit écrite de la main de celui qui se reconnaît débiteur. C'est moi qui paierai. Et je ne te rappelle pas que toi, tu as aussi une dette envers moi, et c'est toi-même. Voilà comment est Paul, alors, non seulement dans le monde, non seulement dans l'Église, mais dans ses relations avec les autres. Je pourrais t'ordonner. J'ai toutes les raisons d'exiger, puisque grâce à moi, tu as reçu la vie éternelle. C'est une dette que immense que tu ne pourras jamais me payer. Eh bien, pourtant, au nom de l'amour, je te supplie d'affranchir Onésime. Et j'ajoute que s'il faut te payer le prix de l'esclave, moi, je te le paierai. Ça s'appelle soigner soi-même. Ça s'appelle oublier qui on est. Alors, je vais conclure avec un verset, mais avant de conclure avec ce verset, je vais vous faire un aveu. Je vais vous dire pourquoi j'ai choisi ce sujet. Il y a peu de temps, ici même, j'ai dans une de ces discussions musclées que nous avons parfois les uns avec les autres, j'ai dit à mes interlocuteurs, vous ne pouvez pas me contredire parce que là je vous parle en professionnel. Eh bien, je peux vous dire qu'une petite voix intérieure m'a dit ça, mon bonhomme, c'est le contraire du renoncement. Se prévaloir de ce qu'on est professionnellement pour que les autres la bouclent, ça c'est pas chrétien, si je puis dire. Alors, sur le fond de ce que j'ai dit, je ne retire rien, ma position n'a pas bougé d'un iota. Par contre, sur la méthode, effectivement, j'ai à apprendre le renoncement. Et donc, ce que j'ai dit ce matin, c'est d'abord pour moi, avant de l'être pour vous. Dans les milieux évangéliques, nous n'avons pas la culture du renoncement. Il faut être à l'écoute de Dieu, mais j'allais dire de manière, au bon sens du terme, mystique, en tout cas spirituelle. Il faut être à l'écoute de Dieu pour savoir ce à quoi il nous demande à chacun, et encore une fois, la réponse n'est pas la même selon les individus, à chacun ce qu'il demande comme renoncement. Mais Paul, dont on disait tout à l'heure, dont Akoche disait tout à l'heure que il était parfois pas peu fier de ce qu'il était. En réalité, quand on comprend, enfin quand on fouille les textes, on s'aperçoit que c'est l'inverse. C'est d'ailleurs pour ça qu'à un moment il dit, vous vous souvenez de l'épisode quand il dit, on m'accuse d'être énergique dans mes lettres et faible quand je suis présent. Ce renoncement, ça lui vaut ça. C'est-à-dire qu'il est tellement humble quand il est là, qu'après on s'étonne que dans ses lettres, il soit énergique. Et il est énergique parce qu'il parle au nom du Seigneur dans ses lettres. Donc là, il n'y a pas de demi-mesure. Mais quand il est là, il a l'humilité de quelqu'un qui a renoncé à lui-même. On connaît tous les deux quelqu'un comme ça. Je fais allusion à Henri Blocher, qui est un grand, on peut dire ça comme ça, un grand théologien évangélique, et qui, quand il est là, s'excuserait presque d'exister, alors qu'il écrit des choses assez péremptoires, assez carrées, mais quand il est là, c'est pas du tout le mec qui la ramène et qui parle plus fort que tout le monde. Au contraire, si on ne lui fait pas la place pour qu'il s'exprime, il se tait. Hein, il connaît comme ça aussi. C'est quelqu'un dont la modestie surprend compte tenu de l'ampleur de ses compétences théologiques. Bon. C'est ça, renoncer à soi-même. Et Paul est perçu comme ça à son époque. Paul est perçu comme quelqu'un qu'on confondrait presque avec une plante verte quand il est là, mais qui, par contre, écrit des trucs où ça, c'est qu'il y a... C'est ça, le renoncement. Et donc, je vais juste lire, et ce sera ma conclusion, et j'aurai fini. J'ai commencé par « Soyez mes imitateurs comme moi je suis l'imitateur du Christ ». Et je dois vous avouer que ce propos, mais vous le savez déjà, c'est une conclusion. C'est une conclusion, et donc il faut, pour être complet, lire ce qu'il y a juste avant. Et ce qu'il y a juste avant, c'est... Alors, j'ai dit 1 Corinthiens 11, donc là c'est 1 Corinthiens 10, 33, puisque c'est le dernier verset du chapitre précédent. C'est ainsi que moi-même, je m'efforce de plaire à tous, en toutes choses, en ne cherchant pas mon avantage personnel, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même du Christ. »